Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Waouh, vous êtes nombreux. On va commencer cette conférence de la journée Mangatan. Alors, je me présente, je m'appelle Emmanuel Bagot, je fais partie de l'association Forum Tali. Alors, Forum Tali, c'est une association qui fait des conférences sur l'animation japonaise, mais c'est également l'association qui va se charger du cosplay qui arrive juste après cette conférence. Et donc, j'ai avec moi pour cette table ronde, plutôt sur la représentation du corps et l'animation japonaise, j'ai avec moi Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour Emmanuel. Si
tu peux te présenter un petit peu.
Donc, du coup, je suis Lionel Pinto. On n'en voit plus mon nom, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je suis également un membre de l'association Forum Tali. Et du coup, on peut me retrouver à différentes conventions partout en France pour faire justement des conférences, des activités, des jeux, toujours autour de la culture visuelle japonaise.
Et notre invitée, c'est Nabashi. Elle était déjà avec nous l'année dernière. Normalement, ce n'aurait pas dû être toi, Nabashi. On va peut-être dire un mot sur la personne qui aurait dû être à ta place et que tu as accepté très gentiment de remplacer.
Ah oui, 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 bon.
Alors, est-ce que ton micro fonctionne?
Je ne sais pas. Si, il marche?
Est-ce que vous l'entendez? Ok, il faut parler très proche du micro.
Je me présente rapidement, je m'appelle Nabashi et je suis artiste freelance. Et là, je suis en remplacement cette année d'une autre artiste qui nous a aidé à la préparation de cette conférence et qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Plumy. Et on la remercie beaucoup parce qu'elle a passé beaucoup de temps à travailler sur cette conférence. Et on est un peu triste qu'elle n'ait pas pu venir parce qu'elle s'est vraiment investie.
C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la notion de corps,
voilà,
en tant qu'artiste.
C'est un de ses centres de travail, notamment la représentation du corps. Et du coup, ça aurait été quand même mieux de l'avoir. Mais je vais essayer de combler le manque du mieux que je peux.
Mais surtout que tu es artiste toi-même. Tu peux le dire. Pour aider à la représentation, parce que parler d'animation, c'est bien. En montrer, c'est mieux. Et je vous assure, le GIF qui est juste derrière ne va pas tourner en boucle pendant toute la présentation, puisque en fait, on va utiliser ce petit outil auquel on tient à remercier JB de nous avoir aidé à sa conception. Vous voyez, on a prévu un panel d'images, donc vous pouvez essayer de deviner de quel animé c'est. On ne passera pas toutes les animations qui correspondent à toutes les images, mais ça va nous servir de support visuel pour vous montrer plus concrètement de quoi on parle. Le sujet, je voulais aussi remercier, avant de commencer tout à fait cette conférence, remercier tout d'abord Latane, qui est l'organisatrice de la journée Mangatan, et les Utopiales pour nous avoir fait confiance à Forum Tali une fois de plus pour cette conférence. Voilà, ces introductions étant faites, on va aller directement dans le cœur du sujet. Le sujet de la représentation des corps, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Du coup, on a décidé d'éditorialiser, de circonscrire un peu le problème en essayant de catégoriser en trois phases, on va dire, ce qu'on avait pu trouver en réfléchissant entre nous, en préparant cette table ronde sur la notion de corps. Les trois parties qu'on a trouvées, c'est le corps en tant qu'élément d'attraction, de séduction, et également le corps en tant qu'élément qui est un réceptacle à la violence ou qui sert une action, enfin l'action de manière générale. Et enfin, on terminera avec le corps, un petit peu les animations un petit peu décalées ou celles cherchant à provoquer le rire. Donc on va commencer tout de suite par la séduction. On a également prévu des petits supports visuels. Alors malheureusement, je pense que ça va être un peu compliqué pour les gens qui sont au fond de la salle de bien pouvoir les voir. Mais pour ceux qui sont au premier rang, on essaiera de vous en montrer de temps en temps. On va peut-être commencer par toi, Nabashi, sur la notion de séduction. On va peut-être partir de ce qui est un petit peu une constante de l'animation japonaise. En tout cas, une notion assez vague mais très présente, c'est-à-dire le moe. Je vais tout de suite montrer un exemple. Je te laisse peut-être un petit peu définir ce que c'est que le moe.
Alors, le moe, c'est un genre qui se rattache beaucoup à la tranche de vie. C'est souvent des animés où les gens vont dire qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est des gens dans leur quotidien. Et le but, c'est de provoquer. Alors là, on a un très très bon exemple. Le plus connu, qui est Kaon, qui date de 2009, je ne me trompe
première
pas.
Première saison 2009.
Et qui a été aussi le premier pas dans le moe de beaucoup de personnes. Moi compris, il me semble que Lionel aussi, ça a été c'était ton premier animé moe.
Oui, exactement, c'est mon premier animé moe.
Introduction.
Du coup, voilà, le moe, en fait, c'est souvent, donc, plus souvent des personnages féminins, même s'il y a beaucoup, il y a aussi des personnages masculins. Et le but, c'est de montrer des personnages mignons dans des situations mignonnes. Et alors, comme moe, c'est un terme japonais, il y a beaucoup de questions qui se posent de comment traduire le moe. Et il y a notamment le traducteur du jeu Xenoblade Chronicles 2. Bon, j'ai la boîte ici, si vous la voyez. Et en fait, à un moment donné, il est question de moe dans le jeu. Et le traducteur a très justement, je trouve, traduit le terme moe par gouzimimi, qui est en fait ce qu'on est censé ressentir dans le moe. C'est quelque chose de mignon, de doux, de...
C'est un peu l'équivalent québécois, on va dire, si on doit traduire vraiment un truc en français.
Exactement.
Donc Goosey Mimi, c'est vrai que ça définit bien...
Bah, c'est un peu ça, c'est censé provoquer de l'émotion, de protection, de vouloir protéger les personnages. Souvent, le champ lexical qui est associé au moé, c'est le champ lexical de la pâtisserie, avec des personnages ronds, moelleux, doux.
On utilise pas mal d'anglicismes comme genre le fluffy ou des trucs comme ça, ou même trucs plus japonais comme foie-foie, mais tout ça tourne autour vraiment de la sucrerie, du côté plaisir un peu simple en fait.
Exactement, oui. C'est un peu, je dirais pas plaisir coupable, mais c'est un peu le plaisir qu'on s'offre le soir, on a envie de décompresser, de prendre un peu de bon temps. Et on regarde ça parce que bah, souvent, toutes les préoccupations, ça va être de voir les personnages faire des choses mignonnes entre elles.
Voilà, donc ça, c'est un exemple encore plus visuel. Voilà, là, pour le côté franchement purement mignon. Je crois qu'on dépassera pas. J'avais quelques cartes postales, si certains voudront les consulter après, qui étaient fournies avec l'édition officielle de Keon, qui désigne bien ce style un petit peu voilà, rond, etc. Où en fait, on est dans cette partie qui concerne l'attraction, on va monter petit à petit en ce que je pourrais dire des degrés d'érotisme. Mais le moé, c'est quasiment à la frontière entre le non-érotisme et un érotisme extrêmement léger. Quoi.
Je dirais subtil, en fait.
Subtil, ouais. C'est pas forcément l'adjectif qu'on utilise de plus pour l'animation japonaise, voilà, mais là, pour le coup...
Pour le coup, c'est léger, mais c'est subtil, parce qu'il y a quand même la volonté d'attirer le spectateur.
Et surtout, en fait, Keon, c'est un animé qu'on a dit de 2009, mais il y a des productions, on a trouvé une un peu plus récente, qui est notamment Yuru Camp. Donc voilà, je te laisse montrer
c'est
Au Grand Air en français, qui est édité chez Nobinobi, dont l'animé était disponible chez Crunchyroll. Voilà, il faut cliquer une seule fois. Donc voilà, on a typiquement ce genre, voilà, on retrouve un petit peu ce genre d'animation. Au Grand Air, pour faire le pitch très rapidement, ce sont juste des adolescentes qui font du camping, dont une normalement en solitaire. Là, c'est une scène un peu de groupe, mais on retrouve un petit peu voilà toute cette idée dans la représentation des corps, c'est-à-dire bon, voilà les grands yeux pour faire très mignon, voilà un style, voilà c'est un plan très rapproché, mais voilà le petit sourire, l'absent de nez, voilà on a vraiment dans l'idée non pas forcément de séduire le spectateur, mais voilà de lui procurer un petit sentiment de confort.
Ah bah c'est... Puis surtout avec Yuru Camp, où c'est des personnages qui sont emmitouflés. Bon, c'est pas vraiment le corps, mais ils ont souvent des grosses parkas, des polaires. Ça, c'est toi qui avais fait remarquer ça pendant nos discussions. Que même eux, quand on les regardait, on avait chaud avec eux parce qu'ils étaient tout le temps allés boire des chocolats chauds, à être dans leur duvet. Il y avait vraiment le côté cocon.
C'est quoi, effectivement, il était entre gros guillemets un peu moins subtil dans son message, où justement il essayait de nous apporter tout un univers un peu confit dans lequel on peut. On prend vraiment son plaid, on se met dedans et on vit avec les personnages un peu toutes les petites péripéties.
Et puis même, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'action forcément dans les... Enfin après, le mot n'est pas incompatible avec des séries d'action. Voilà, c'est plus
on verra après.
On verra après, ouais. Mais là, je voulais juste signaler que voilà, c'est un style qui est très exagéré, très simplifié, mais en même temps très exagéré, notamment pour ce côté un peu mignon de la maladresse, exprimé à grand renfort de non-subtilité pour le coup.
Après, le choix de faire des expressions très simplistes, souvent ça accentue l'expressivité des personnages. En fait, là, on comprend très facilement qu'elle s'est fait mal. Il n'y a pas besoin de 3 heures de dissertation pour savoir qu'elle s'est fait mal, parce qu'elle s'est cognée sur le doigt.
Et puis même l'expression, la bouche, en fait, est totalement pas réaliste du tout. Ouais, tout est au service de l'expressivité d'une certaine mignonitude, Goosey Mimi.
Exactement. Ce traducteur a fait un très bon job.
Alors, après ça, on parle de quelque chose qui est quand même naturellement plus à destination d'un public masculin hétérosexuel, tout simplement, mais bon, les femmes accrochent aussi à
le moé, ouais, est un style très universel parce qu'il y a autant de filles que de garçons qui vont aimer. Bah, si tu veux.
Ouais, c'est typiquement, par exemple, moi, Keon et Yuru Camp, j'ai été introduite par ma copine qui est une grande fan justement de tous ces univers moé et qui ne jure que par ça. Et pourtant, elle est une femme hétérosexuelle et
dont on pourrait penser qu'elle n'est pas la cible, en fait.
Exactement,
oui,
exactement.
Oui, on pourrait se dire non, c'est pour les mecs. Non, les filles sont très fans aussi de ce côté mignon.
C'est ce qu'on a vu en préparant ça, c'est qu'en fait, finalement, le public féminin est beaucoup plus open. Et on va en venir justement au public féminin avec des œuvres justement qui leur sont plutôt destinées.
Alors oui, là, on parlait du moé qui était plus destiné aux garçons, ce qui est le cas de Kaon. Mais moi, je voulais faire une comparaison entre deux séries sportives, parce que généralement, les séries sportives, on les destine à un public masculin. Mais il y a aussi des séries sportives à des publics féminins, notamment la série Free, qui est chez Kyoto Animation de 2013. Tu peux mettre celui-ci. Donc Free, c'est un peu dans la lignée de Kaon pour ce personnage-là, qui est la coach de l'équipe qui s'appelle Go, et qui est traitée vraiment de façon moé aussi dans la série. Alors que la série est un public féminin, du coup, on n'a pas besoin de donner au personnage féminin une attraction particulière. À l'inverse, on va voir dans une série qui vient du Shonen Jump qui s'appelle Kuroko no Basket, ou The Basket Which Kuroko Plays. Et en fait, le premier personnage, enfin, c'est pas le premier personnage féminin, mais un des personnages féminins majeurs de cette série, qui est la coach d'une équipe adverse, la première fois qu'on la voit apparaître, c'est...
On va voir l'animation très rapidement, parce que voilà.
C'est ça, ça c'est la première apparition. On voit même pas son visage, elle est même pas nommée. Et en fait, ça montre bien la différence entre une série qui, pourtant, elles ont la même base, c'est des séries sportives avec des coachs féminins, mais en fonction du public et de l'attraction qu'on veut donner, on va avoir un traitement totalement différent. Où on va avoir d'un côté le personnage Moé et Simplet, auquel on pourrait s'identifier, en fait. On a envie de s'identifier à Go, qui aide ses camarades de classe. De l'autre côté, Momoi, qui est pourtant un personnage montré comme très fort dans la série, c'est clairement la femme fatale. Elle est juste là pour le plaisir des yeux des lecteurs.
Et on va parler peut-être un peu des mecs quand même, parce que c'est...
Oui, alors du coup, même si Kuroko no Basket est une série pour mecs, il y a quand même un fandom féminin très important, du fait que ça reste, surtout dans l'anime, moins dans le manga, mais vraiment l'anime a mis l'accent sur le côté beau gosse des personnages, ce qui fait qu'on a quand même une représentation qui marche bien dans les deux cas.
Voilà, ça c'est par exemple...
Voilà, ça c'est un bon exemple.
Mais voilà, on en discutait pendant les préparations. C'est vrai que dans le rapport des représentations des corps avec tout ce qui est attrait, on est à rebours des clichés en fait, qu'on pourrait penser, des clichés qui sont extrêmement masculins, de dire que les hommes c'est plus des œuvres, il faut y aller directement, sans subtilité, mais vraiment on y va directement, alors que les femmes pourraient plus aux alentours. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse si on regarde ces exemples-là, où tout ce qui est œuvre destinée pour hommes, c'est... C'est précieux, c'est mignon, c'est gousimimi, voilà.
Et en fait, c'est censé
alors que
provoquer.
Là, on y va carrément. Il y a même, je sais pas si tu avais d'autres exemples.
Ah si, alors du coup là, on va aller dans un versant encore plus extrême, on va dire, sur le public féminin, qui sont les otome games, qui sont des jeux de drague en fait destinés à un public féminin. Et il y a eu beaucoup d'adaptations animées, notamment par exemple l'un des plus célèbres qui va être la saga Utena Prince-sama, où alors là, ça va à fond dans les clichés, ça va pas par le dos de la cuillère. Et on va voir, si tu peux montrer dans les animés, on va voir des scènes. Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu.
Tu vas le retrouver.
Là, je me disais bien. On va voir ce genre de scène tout au long de l'animé, alors qu'on pourrait se dire, parce que le but, c'est vraiment de, pour le coup, dans ces séries-là, de faire payer le spectateur au maximum. Et du coup, dans ce côté très érotisant, on va aller sur le palier un peu plus haut, du coup. Avec Lionel, tu voulais parler d'une série en particulier.
Oui, donc une série très récente qui est aussi subtile que ce gif, qui du coup s'appelait Darling in the Franxx. Du coup, c'est une série très récente qui date de ce printemps dernier.
Qui a fait beaucoup débat.
Qui a fait beaucoup débat, justement, du fait de sa non-subtilité. du coup, c'est une série qui était, pour faire très court, c'est une série de gros robots, comme on peut le voir ici, où en fait, les conducteurs sont des enfants qui ont été isolés des adultes et qui ont une éducation très sommaire, qui n'ont pas eu d'éducation sexuelle, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est de faire un baiser, par exemple. Et du coup, on leur demande de conduire en père hétérosexuel, donc c'est un homme, une femme, des robots comme ça. Et du coup, dans des positions qui seront, comme on peut le voir ici, légèrement... pas
légèrement.
Très subtiles, comme on peut le voir. Donc en fait, là, on ne le voit pas, mais l'homme se situe vraiment juste derrière la fille et du coup, attrape les manettes qui sortent du coup, de son bas du dos. Et du coup, c'est comme ça qu'ils conduisent le robot. La fille prend les dégâts lorsqu'ils conduisent les robots, ce qui l'amène également à faire soit des mouvements, soit des bruits qui sont forcément... très, très connoté. Même les paroles qui s'échangent sont forcément très connotées. Typiquement, par exemple, les héros vont dire que lorsqu'ils se synchronisent pour pouvoir conduire le robot, le personnage masculin va dire « je rentre en toi ». C'est-à-dire qu'il rentre dans son esprit, mais en tant que spectateur, on sait très bien de quoi ils veulent parler.
C'est un exemple d'utilisation de la représentation des corps qui est vraiment pour un côté ultra voyeuriste et alors là j'exprime un avis personnel, mais c'est ultra malaisant quoi. Enfin vraiment, ouais. C'est moi quand on ressasse qu'à rediffuser de regarder le gif, vraiment on se dit mais voilà quoi. Enfin limite faites un animé pornographique quoi. Arrêtez d'essayer de faire du.
Le souci là, c'est que les personnages sont des objets en fait dans leur propre série. Et moi je n'ai pas pu aller au bout de cette série parce qu'au bout d'un moment donné, ça me mettait mal à l'aise pour ces pauvres personnages, ils comprennent rien à ce que leur est là, ils sont juste des objets de plaisir pour les gens qui regardent quoi.
Ouais,
c'est comme ça que j'ai ressenti.
Ouais, puis voilà.
Ce qui fait que, hormis justement un des personnages principaux qui sera l'héroïne de la série, qui s'appelle Zero Two, qui elle est consciente justement de toute cette objectification qu'elle subit et même justement de sexualisation dans laquelle elle est mise en place et qui du coup va en jouer, va en profiter va s'en servir et qui du coup sera justement marginal et vu comme justement beaucoup plus détraqué que la moyenne du fait que justement elle en est consciente.
On arrive à une notion, je vais aborder très rapidement parce que c'est quelque chose d'important à préciser quand même, c'est qu'en termes d'attraction pour un personnage, il y a deux types d'attraction. Alors attention, ça va être la partie un peu terme scientifique de la table ronde. C'est la différence entre l'intradiégétique et l'extradiégétique. C'est-à-dire que l'intradiégétique, c'est les relations entre les personnages qui sont vraiment entre les personnages. Par exemple, Roméo trouve attractive Juliette. Il aime Juliette, mais le spectateur peut la trouver laide, ça change pas. Là, on est vraiment dans le domaine de l'intradiégétique. Par contre, dans des animés qui ont pour but de mettre en scène des personnages attirants pour l'œil, pour le spectateur, là, on parle vraiment d'extradiégétique. Pour donner un exemple qu'on vite fait sur l'attraction, un truc qu'on peut parler, c'est la femme fatale. Voilà, ça peut être quelque chose.
C'est le bon exemple, oui.
C'est le bon exemple. Je crois il y a un gif de Fujiko de Lupin 3. Je ne le trouve jamais. Voilà, il est juste là. Voilà, où là vraiment, on a une idée d'un personnage. Je vous ai pas mis vraiment honnêtement l'animation la plus érotique de Fujiko,
mais se calmer sur certaines parce qu'il y a des choses qui passent vraiment pas.
De toute façon, dès qu'on parle de la représentation des corps, on tombe dans des domaines, à la fois la violence dont on va aborder dans l'enquête tout de suite là bientôt, et on est obligé de passer à un niveau d'érotisme. Là, on s'est limité, on a exclu les œuvres pornographiques ou ultra érotiques, mais forcément, la représentation du corps va de pair avec ça, quoi. Mais c'est intéressant, je trouve, c'est limite plus intéressant dans des œuvres un peu plus grand public ou qui sont destinées à plus de gens, de voir comment ils utilisent les corps à cet point pour exprimer que le personnage est mignon ou le faire ressentir au spectateur. Je crois qu'on n'avait plus rien sur... Ah oui, si...
C'était juste Faye Valentine également qui reprenait exactement ce même exemple.
Ouais, Faye Valentine de Cowboy Bebop qui est...
Qui
est sûrement un peu plus connu en France. Je pense que par exemple que Lupin qui était sorti sous le nom Edgar de la Cambriole, mais voilà, on a Faye Valentine qui est quand même une femme d'action, qui est une femme très indépendante, mais qui est quand même représentée avec elle a des vêtements extrêmement légers, on voit qu'elle est mise en avant, qu'elle est bien
penser,
dotée comme on dit.
Je l'ai dit plusieurs fois, mais elle me fait un peu penser.
Bien près du micro. En
fait. Elle me fait un peu penser aux James Bond Girls, moi en général. Ces personnages-là sont très inspirés des James Bond Girls. Bon, dans le cas où Faye Valentine est quand même un peu plus indépendante que les James Bond Girls qui n'existent qu'à travers James Bond.
Et je finis très rapidement sur cette histoire d'attrait. Voilà, on va faire une parenthèse avec le chibi, c'est-à-dire vraiment l'ultra mimi, où là le corps n'a quasiment plus d'importance. Ce sera d'ailleurs on va revenir plus ou moins pendant cette conférence sur l'idée où, au bout d'un moment, le corps finit par perdre de l'importance sur les représentations de chibi. Donc là, c'est sur un animé court, donc c'est Bang Dream. Girls Party Pico, voilà, donc Vandori Pico, où là, voilà, c'est vraiment du personnage qui est fait pour être instantanément
chimique. C'est catchy, en fait.
Voilà, c'est catchy, et voilà. J'avoue, ce gif me fascine. Je vais l'arrêter tout de suite, sinon je ne vais plus pouvoir le faire. On va passer, du coup, maintenant, ça, c'était vraiment la façon dont les personnages nous attirent ou s'attirent entre eux. Mais là, on va passer à s'attirent en deux termes. Avec Dragon Ball, on ne peut pas faire une conférence sur l'animation. Enfin, c'est difficile de faire une conférence sur l'animation japonaise.
C'est un peu la base pour tout le
monde. Sans passer par le point Akira Toriyama. Et là, notre gars sûr, c'est Lionel qui va nous en parler, grand fan de Dragon Ball. Donc tu voulais un petit peu revenir sur l'histoire un petit peu, en tout cas de la représentation des personnages dans Dragon Ball.
Exactement. C'est-à-dire que du coup, quand on s'était dit justement qu'on devait aborder un point violence, on voulait voir justement comment la représentation des corps dans l'animation pouvait retranscrire la violence non seulement sur le corps et comment ils peuvent retranscrire également la puissance qu'a le personnage et comment il la donne à d'autres personnages. Et donc du coup, forcément, j'ai pensé à l'exemple classique qui était Dragon Ball. Dragon Ball est une série qui a énormément évolué au fil de son existence. Parce que du coup, c'est quand même une série qui a maintenant 30 ans. Et du coup, dans Dragon Ball original, on dira, la série avait un but beaucoup plus humoristique. Justement, on n'avait pas toute cette échelle de puissance et de violence qu'on a aujourd'hui. Comme on le voit sur le GIF ici, par exemple, originellement, Dragon Ball, c'était vraiment une série où tous les personnages étaient très ronds, très bouboule, comme on le voit ici. Et du coup, tous les combats, justement, avaient un but plus art martial et humoristique, parce que chacune des techniques avait un ressort humoristique que vraiment de puissance. Quand par exemple la morsure du soleil, c'était vraiment je reflète sur mon crâne le soleil, je le projette. Ça avait beaucoup plus un but humoristique que vraiment de puissance. Et toute cette...
Et on peut même dire que, par exemple, des personnes qui auraient grandi avec Dragon Ball Z, qu'on va aborder juste après, ouais, ne reconnaîtraient pas forcément Dragon
pas
Ball
forcément,
en,
non,
ouais, en Dragon Ball juste dans cette animation. Parce
exactement,
qu'en fait,
ouais,
là, on passe d'un truc... Bon, on va montrer directement Dragon Ball, la suite que ça a donné avec Dragon Ball Z.
Exactement.
Mais voilà, les deux styles, enfin...
Bah là, c'est le style
décalage,
de
limite,
Toriyama,
hein,
tel qu'il est connu maintenant. Quand on parle, ouais, de Dragon Ball Z, les gens pensent instantanément à ça. Il faut
ça,
beaucoup plus penser à ça qu'au personnage tout rond du début, comme ce qu'on avait vu avec Krillin et Goku.
Disons-le, là, ça a l'air de beaucoup moins rigoler. Le corps, enfin, là, ça va encore, je trouve, hein, mais le corps a l'air quand même de morfler un peu.
Oui, parce que là, ça constitue encore au début de Dragon Ball Z, donc c'est que la fuite en avant n'avait pas encore pris des proportions récentes, parce que du fait que Dragon Ball est un shonen, Neketsu, du coup, il y a forcément une fuite en avant qui prend des proportions toujours un peu folles. Donc là, on se situe au début de Dragon Ball Z, donc ça va encore. Justement, on a juste le corps qui a pris beaucoup plus de muscles. Mais là, du coup, vers la fin de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, on se retrouve vraiment avec une échelle de violence et de puissance qui est vraiment retranscrite graphiquement. C'est-à-dire que là, on peut voir, par exemple, les visages sont vraiment déformés par les coups qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que vraiment, si on compare avec le gif de tout à l'heure, là, chaque coup, on a l'impression que c'est vraiment, il se distribue des coups.
C'est une bagarre d'enfant.
Une bagarre un peu réaliste d'enfant. Alors que là, vraiment, on peut voir que le coup déforme littéralement la mâchoire de l'adversaire. Et on se dit que s'ils n'étaient pas des Saiyans extraterrestres, jamais ils pouvaient résister
ils sont
à
morts,
ça.
Hein. <C'est>...
Exactement.
Et puis surtout, attends, si tu veux laisser juste une seconde remettre un petit peu l'image. Moi, il y a un truc qui me fascine. Alors, c'est pas vraiment le corps en lui-même, mais c'est surtout la proportionnalité, la parallélisme en fait de l'action qui fait qu'on a vraiment l'impression que les deux mettent toute la puissance de leur corps dans le coup qu'il a insène à l'adversaire et qu'en même temps leur propre corps reçoit ça. Il y a une vraie impact sans mauvais jeu de mots sur le coup, quoi.
C'est vrai que du coup on a d'autres exemples de ce point de vue là. C'est par exemple c'était qui est juste ici ou pareil ici là. C'est pareil, si on reçoit ce genre de coup, on sait très bien qu'on meurt directement et on sent bien le corps qui a été projeté un petit peu mais qui est en même temps rabattu par le deuxième coup qui vient.
Moi, il est mort. Il est mort.
Donc là, justement, on sent vraiment.
C'est vrai qu'il a une auréole de toute façon.
Il est déjà mort.
Il est déjà mort. Ouais.
Il ne peut plus mourir.
Et donc, du coup, on sent vraiment cette échelle de puissance qui prend des proportions ahurissantes et qui a été calmée du coup récemment. Parce que du coup, Toriyama avait confessé à la sortie du film Battle of Gods, donc sorti en 2016 en France, que justement, il sentait que la série Dragon Ball Z avait pris des dimensions machistes qui l'avait dépassé. C'est qu'il sentait par exemple que le personnage de Goku était beaucoup plus machiste que ce qu'il voulait lui donner. Et du coup, il a essayé, au travers des formes God et des formes Blue ensuite, de revenir à des proportions plus réalistes.
On est dans un vrai cas de retour arrière, quoi.
Exactement.
C'était vraiment,
demi-tour. La fuite en avant et demi-tour avant.
Exactement,
que ça devienne
c'est un peu comme si les personnes qui étaient derrière ça avaient dépassé le public et que le public avait fait wow, stop là. Alors que les coiffures de Yu-Gi-Oh! Non, toujours pas. Mais,
c'est un autre sujet.
Comme ça, c'est un... Mais pour le coup, ça fait partie du corps. Mais nous, par contre, on va continuer un petit peu la fuite en avant au niveau de la violence avec une œuvre qui est un peu connue parce qu'elle est sur Netflix.
Exactement,
qui est Devilman Crybaby.
Alors...
Juste pour faire une petite parenthèse avant de te redonner la parole, en fait c'est Yuasa qui est derrière ça. Et pour prouver en fait que le monsieur ne fait pas que ce genre de d'animation, il a été capable de faire Lou et Lilo Sirène qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. Vas-y, ouais, c'est ça tout à fait. Voilà, donc ça, le monsieur est capable de faire de l'animation comme ça, c'est-à-dire on commence à voir une forme d'animalité, mais dans un film pour enfants.
Oui, alors que Devilman, c'est pas pour les enfants.
Alors que Devilman, vas-y, Nabashi, c'est pas du tout pour les enfants. On va commencer par mettre une petite illustration.
Alors,
voilà.
Devilman, on le doit à Go Nagai, qui est connu en France surtout pour Goldorak. Mais du coup, il a un univers qui est beaucoup plus sombre qu'on pourrait croire de Goldorak, notamment avec Devilman, Mao Dante et Violence Jack. Et alors, c'est pas la première adaptation qui a été faite de cette œuvre. Il y a eu une première adaptation qui a été faite en 72. Mais c'est celle-ci qui m'intéresse, justement parce que Yuasa a un traitement très particulier du corps. Et notamment dans la façon de montrer les transformations de la nature de ces personnages. Parce que les histoires rapides de Devilman Crybaby, donc de Devilman en général, c'est que les humains se transforment, vont se transformer en démons, ou en tout cas en espèces de créatures démoniaques, qui sont un peu des fusions de plein d'espèces d'animaux entre elles. C'est très visible, on a un gloobie-boulga de bestioles entre elles, on ne sait même plus trop ce que c'est à la base. Et en fait, lui, dans son traitement des personnages, plutôt que de montrer ça de façon en nous les montrant physiquement un animal, il va le montrer dans la gestuelle de ses personnages. Et on va le voir notamment dans une simple course qui est très très simple et en fait qui suffit à bien montrer la différence entre les humains et le personnage qui a perdu son humanité.
Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'animation pour le montrer, pour le coup.
C'est très simple et pourtant, c'est suffisant pour faire comprendre toute la transformation qu'a eu le personnage psychologiquement, autant que dans sa nature. Parce que même si l'histoire est très violente de son sujet, il y a beaucoup de...
Il y a vraiment une limitation de moyens qui me fascine, moi, dans cette animation. C'est-à-dire que quand on regarde le corps en lui-même du personnage, il n'est pas si différent. Même si on le mettait en pause, on se dirait, ouais, il est peut-être pris dans une position...
Les proportions sont les mêmes, en fait.
Voilà, et du coup, mais direct, on sent l'animalité du truc, quoi. C'est,
Après, ce style d'animation, je sais qu'il a fait beaucoup de débats quand Crybaby est sorti, parce que les gens trouvaient ça moche.
Trouvaient que c'était c'est un autre débat.
C'est un autre débat, mais au contraire, moi, je trouve que ça marche bien, parce que la simplicité parfois permet de montrer plus d'informations. C'est ce qu'on avait avec les expressions tout à l'heure dans Eurocamp, où juste une croix sur les yeux permettait de deviner qu'elle avait mal, alors que parfois, il n'y a pas besoin de plus.
Et on va montrer aussi là jusqu'où va Devilman, c'est-à-dire qu'il y a une autre, c'est celle-ci, voilà, cette animation-là.
Oui, la déformation qui vient pour vraiment illustrer la douleur intérieure. Voilà.
Et là, on arrive à la notion de douleur, ce qui m'offre une très bonne transition pour Made in Abyss. Alors, je vais faire un petit... je vais mettre tout de suite le gif de Made in Abyss, mais voilà, j'ai ramené. Alors, je m'adresse aux parents. Si vous tombez sur ce manga en librairie et que vous avez des enfants, c'est pas pour eux. Mais vraiment, vraiment, c'est pas pour eux.
Ça a l'air mignon, mais c'est pas mignon.
Ça a l'air extrêmement mignon, mais je ne vous ouvre pas le truc, vraiment. C'est une histoire assez de violence, on va dire, à la fois un peu physique. Vous voyez, l'animation le montre très bien. Vous avez le personnage de Riko, qui est l'héroïne principale, qui a l'air vraiment d'une enfant. Il y a tout un débat, d'ailleurs, sur l'âge des personnages.
Tout à l'heure, on parlait du moé. C'est un personnage moé dans son traitement. Oui. C'est des gros yeux, c'est un personnage
typiquement
rond.
Vous prenez le personnage, là, je vais attendre qu'elle revienne. Voilà. Vous prenez ce personnage-là, vous pourriez très bien le trouver dans une série de Magical Girl avec ce genre d'animation. Vous imaginez très bien, elle, avec son corps d'enfant, ses habits, et voilà, se faire ce genre de choses. Or, elle se retrouve avec Made in Abyss dans une histoire où voilà, il y a ce genre de monstre où vous voyez son arme est complètement énorme en termes de taille par rapport à sa propre taille à elle. Et là, je vous raconte pas l'histoire, mais dans Made in Abyss, on est à de la torture psychologique pure, quoi. C'est vraiment
Ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que c'est provoqué sur des corps qu'on associe à des enfants.
Voilà.
C'est pour ça que c'est d'autant plus violent pour le spectateur.
Voilà, vous n'imaginez pas, quand vous voyez ce genre de choses, vous n'imaginez pas le voyage qui vous attend si vous y allez. C'est très très bon, mais c'est réservé à un public averti, comme on
complètement
dit. Complètement. Oui, Lionel.
Mais c'est vrai que, comme vous le soulignez plus tard, ce qui dénonce la violence dans Made in Abyss, c'est vraiment tout le décalage entre tout ce car design très mignon qui nous donne envie de nous attacher vraiment au personnage.
Mais on s'y attache d'ailleurs.
Oui, voilà, justement, qui nous fait nous attacher au personnage, qui justement, on sort son pen, on se dit on est parti pour quelque chose de très mignon. Et justement, on les voit confrontés au contraire à des choses qui vont être très violentes et d'une violence psychologique et physique qui sera vraiment très haute.
Et puis surtout, en fait, là on arrive à la notion de douleur. On va peut-être parler très rapidement d'Empire of Corps qui a été diffusé aux Utopiales d'ailleurs.
En 2015, oui, il a été diffusé aux Utopiales.
C'est un film du coup.
C'est un film qui a eu aussi un gros débat sur lui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le traitement du corps. En fait, la série se base sur les zombies. Donc techniquement, les zombies, ils ne sont pas censés ressentir grand-chose. Pourtant, pendant toute la série de Empire of Corps, les zombies vont être utilisés comme outils d'expérience. Et même s'ils ne ressentent pas la douleur, nous, on va la voir transmettre. Donc là, on en a mis un peu soft parce que la série n'est pas soft du tout. Mais en fait,
on a des limitations, hein, forcément.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas montrer quand ils se font planter des trucs dedans ou quand ils se font trancher des bras. Mais en fait, la façon dont l'animation va traiter le corps, ils vont nous montrer les réflexes qu'on a quand on se blesse, en fait. Ce qui fait que quand on regarde ce film-là, on ressent de la douleur alors qu'eux n'en ont pas. Mais parce que le corps, il est représenté de façon réaliste, en fait. C'est que quand on a un acte violent sur le corps, il y a une réaction. Même si le corps est mort, nous, on va la ressentir aussi.
Et même cette notion de douleur fait que... En quelque sorte, je vais reparler, désolé, de Made in Abyss, mais on a une tromperie du cerveau, c'est-à-dire qu'on voit, par exemple, là, dans le cas de Empire of Corps, c'est un zombie, donc on sait que c'est quelqu'un de non-vivant, c'est un non-être humain, on va dire, et enfin, ça serait une définition de non-être humain, mais ça, on laissera ça à d'autres tables rondes, mais voilà, on sait que voilà, c'est pas un être humain, ça peut pas être qualifié de torture en tel
voilà,
quel,
c'est ça,
mais
morts,
on peut pas s'empêcher de penser à ça, et pareil dans Made in Abyss, on sait, bon, c'est des personnages, mais on se dit, ça reste des enfants, alors qu'on voit bien que c'est un univers un petit peu différent. Je vais continuer à faire une transition sur la douleur. Tu voulais parler rapidement d'Anne Badeau, hein, pour des thèmes un peu plus légers.
C'est ça, ouais. Donc, il reste de la douleur, mais de la douleur beaucoup plus légère.
De l'action.
De l'action. Et du coup, Anne Badeau, c'était
On devient avec des coachs. On est fan de coach, mais évidemment, dans cette table ronde.
Du coup, Anne Badeau, c'est une série de sports de badminton qui date de cet été, donc l'été 2018, et dans laquelle je sens qui a été pas mal reconnu dans le fait qu'on voyait très régulièrement et de manière très marquée la violence et la douleur sur les visages des personnages. Donc, c'est vrai qu'ils avaient vraiment des car designs très, très soft, très, très mignons également. Et dès qu'a passé en match, on sentait vraiment toute l'agressivité, toute la douleur, même souvent. C'est par exemple un des personnages a une forte douleur au genou qui lui revient souvent. Et durant les matchs, souvent, on va le sentir sur son visage. On va sentir qu'elle a mal, mais qu'en même temps, elle a envie de gagner et qu'elle a envie du coup d'infliger vraiment des coups puissants au travers du coup de sa raquette. Et du coup, d'essayer absolument de gagner le match malgré ses douleurs.
Du coup, moi, je voulais faire une transition très rapide sur Haruhi. Je sais pas si tu avais peut-être.
Non, pardon. Je t'en prie.
Du coup, voilà, sur cette notion, en fait, parce qu'on n'avait pas d'image pour Anne Badeau, mais j'ai extrait une scène d'un animé qui, pour le coup, n'est pas du tout sportif, mais sur cette notion de voir la douleur sur le visage, ou en tout cas, pas forcément la douleur, mais l'action sur le visage. Alors, ça vient de la mélancolie d'Haruhi Suzumiya. À tous ceux qui l'ont vu entendre la musique de ce concert. Mais là, on voit véritablement que l'héroïne, au-delà, ressent sur son visage même la puissance qu'elle veut donner à sa chanson, sa fatigue qui arrive. Et même, toi qui es musicien, tu pourrais nous dire, les corps sont représentés de façon à jouer de façon exacte, ce qui est un peu un décalage, puisque l'héroïne Haruhi est en mode over the top, alors que l'animation se fait en mode il faut vraiment que je fasse réaliste.
Exactement, c'est ça que toutes les partitions jouées par les membres sont exactes. Et au contraire, justement, on a par exemple sur son visage, comme tu dis, justement, une violence vraiment marquée.
C'est un peu l'image qu'on a d'un concert, en fait,
oui, quand quelqu'un se donner à 100%.
Se donner à 100%, même, à 200% même. Voilà.
Et du coup, on va terminer sur ça avec carrément le corps qui disparaît. C'était toi, Nabashi, qui avait ramené ce point.
Je voulais juste parler, parce qu'on en a parlé souvent du corps qui se dépasse. Et il y a un moment donné où, en fait, on n'a même plus besoin du corps pour représenter une action. Et c'est un peu la disparition. Et ça se passe dans un animé que je conseille et dont la deuxième saison va bientôt sortir, qui s'appelle Mob Psycho 100, qui est une adaptation d'un manga par One, qui est aussi l'auteur de One Punch Man, pour ceux qui connaissent. Et en fait, là, le studio Bones a fait un très bon travail d'animation sur ce manga. Et en fait, on voit beaucoup de scènes où la puissance est tellement dépasse tellement l'être humain que le corps devient informe. Et on le voit particulièrement bien sur cette scène-là où on reconnaît le corps, on sait que c'est une personne. Pourtant, il n'y a rien qui pourrait nous dire que c'est... Enfin, à part les yeux et le fait que c'est des bras, en fait, ça pourrait être n'importe quoi.
Et on dépasse même la notion de douleur ou d'interrogation sur la réalité de la personne. Quoi.
Tout ça, parce qu'en fait,
on ne sait même plus où elle est, en fait.
Il n'y a plus de lien avec la réalité.
On ne cherche même plus la part d'être humain dans ce qui pourrait être vu comme une folie. C'était toi qui nous avais soulevé avec Umineko, d'ailleurs, là où on est dans un degré un peu moindre. Parce que là, le corps disparaît. Umineko, je montre très rapidement... pour la notion, voilà. Là, c'est la douleur, mais c'est plus la folie, par exemple. Là, le personnage ne souffre pas, mais il a l'air de vouloir faire souffrir, si je veux dire.
C'est ça, ouais. Dans Higurashi, on a vraiment cette déformation autour du visage, où pareil, le visage va disparaître pour juste laisser transparaître justement la folie et toute la haine et la folie, oui, qui sur son visage.
Si tu vois ça le soir à commerce, c'est vrai que ça fait.
Ça donne pas envie.
Ça donne pas envie.
On a pas envie de rester à côté, non.
Mais alors là, du coup, mais bizarrement, en fait, sur cette image-là, il y a un notion d'effrayement, d'effrayant, mais c'est limite décalé quoi, en fait, pour faire une transition avec ce qu'on a abordé en dernier. Mais...
Là, le décalage est clair. On sait très bien que le manga a la réputation d'être les grands yeux, mais là, les yeux, ils sont complètement disproportionnés. Oui, la bouche n'a pas du tout une forme humaine. Enfin, c'est un humain, il n'y a pas de souci, mais c'est déformé pour nous donner la vision de la folie sur les traits du visage.
De toute façon, pour rappeler, les catégories qu'on avait choisies sont bien entendu transversales. Hein.
On l'a parlé tout à l'heure, le Moe ça a pu se retrouver dans Made in Abyss, alors que ce n'est pas une œuvre Moe.
Et même ça, en fait, il suffit qu'elle, entre guillemets, qu'elle perde sa folie et ça redevient un truc très mignon.
Tout à fait, oui.
Même si ce n'était pas forcément l'objectif numéro un. Mais sur le décalage, sur le fait des corps un peu différents, pour être très honnête avec Lionel, quand on avait commencé à préparer cette conférence, on s'était posé la question de la représentation des personnes obèses et des personnes grosses, tout simplement, dans l'animation japonaise. Et c'est vrai que c'était un peu la cata.
Mais c'est un peu c'est pas super cool en général, l'animation japonaise, sur les personnes en surpoids.
La vision de l'obésité du Japon, quoi, tout simplement.
Un bon exemple que j'avais ramené, on n'a pas de gif, mais du coup j'avais ramené le tome 3, c'est le personnage de Tamako dans Silver Spoon, qui est un personnage donc en surpoids, et un des running gags de cette série, c'est que quand elle fait beaucoup d'efforts, elle devient mince et super belle.
parce que bien entendu l'objectif c'est de devenir
grosse. Quand elle est grosse, forcément elle est pas jolie quoi. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on retrouve souvent dans les séries avec des personnages. Dans mon point, c'est toujours de leur demander de maigrir. En tout cas, c'est un des messages. Je pense que c'est ce que vous ressentez le plus.
Ah oui, c'est souvent. Ouais, en fait, le personnage gros sera soit un trait de caractère pour montrer que soit justement il est geek ou autre, mm-hmm. ou soit que justement ce sera un feignant et qu'il ne veut pas faire d'efforts.
Là, j'ai mis le gif de un gif de Made in Abyss, de Made in Abyss, de My Hero Academia. Oui, Made in Abyss comme ça serait un peu chelou. De My Hero Academia, où avec le personnage de Chaco, où il y avait eu un débat pour donner un côté un peu noble à la chose, mais où il était question de se poser la question pourquoi est-ce que dans l'adaptation animée, le personnage avait perdu des rondeurs. C'est-à-dire, si vous prenez le manga de My Hero Academia, le personnage de Chaco qui est juste là est quand même un peu plus bouboule.
Mais
un peu plus.
Il a de l'embonpoint.
Elle a de l'embonpoint, oui, carrément. Et là, en fait, ça devient. Bon, elle n'est pas non plus un modèle de maigritude, on va dire. Mais, et puis surtout, là, l'animation la montre en bouboule, en fait, parce que bon, c'est son pouvoir. Mais
c'est le principe du personnage aussi.
Et on retombe dans la trêve pour le coup. mais voilà, et pour citer Nabashi, qui est juste là, qui avait quand même dit, j'ai noté ça pendant la préparation, dans My Hero Academia, il y a du gras.
Mais
qu'est-ce que tu voulais dire par là ?
Les personnages ont des vraies formes, que ce soit les personnages masculins, mais surtout les personnages féminins, elles ont des hanches, elles ont des cuisses. Et je trouve ça super. Ça change, parce que je reviens sur Kuroko no Basket, où on était tout à l'heure. Les personnages, que ce soit féminin ou masculin, ils ont tout le temps le même type de corps. Alors que My Hero Academia et son auteur, il a fait un travail que je trouve super cool, c'est que tous les personnages ont des corpulences différentes, ont des tailles différentes. Non, oui, c'est normal, mais il y en a qui ont des musculatures plus importantes que d'autres, il y en a qui sont tout fins, il y en a qui ont de l'embonpoint, comme Ochako. Et c'est quelque chose
Là, on en voit plusieurs types de personnes. On voit bien que les personnages ont vraiment des corps, quoi. Enfin, c'est comment dire, mais...
Je dirais pas que c'est réaliste, mais il y a quelque chose qui fait qu'on a plus envie de s'identifier à ces personnages.
Exactement. C'est quand même, par exemple, le personnage de Froppy qui est censé correspondre à une grenouille. Justement, des traits qui nous font penser vraiment à une grenouille et pas juste à un corps normal.
Permet de rebondir sur une autre chose que j'avais lue, une interview de lui où il expliquait l'importance qu'il portait aux mains de ses personnages. Et on le voit avec Froppy qui a des mains qui ressemblent à celles des grenouilles. Mmh. Mais en fait, tous ces personnages ont des mains différentes parce que pour lui, les mains sont aussi importantes que le visage parce qu'elles permettent de transmettre autant d'émotions. Et on le voit bien avec Deku et ses mains très abîmées ou avec Froppy ou avec Ochako qui a des mains toutes rondes.
Et puis les déplacements de Froppy aussi qui sont... Oui. À titre personnel, je trouve que c'est un peu le coup de génie de ce manga en termes de vraiment représentation de corps, où direct, ça marche. Quoi.
Ça marche directement, on comprend tout de suite le personnage juste en le regardant.
Et bon, on va continuer dans le décalage avec toi, Lionel, puisque tu voulais nous parler d'une œuvre qui s'appelle Pop Team Epic, qui n'est pas forcément très très connue. Dans ceux qui regardent de l'animation japonaise, je parlais pour le grand public.
Oui, dans le grand public, effectivement, pas
moins
beaucoup.
Que My Hero Academia, voilà ça.
Exactement. Ouais. Mais qui est une œuvre qui, je pense... correspond plus ou moins justement à comment on pourrait définir le décalage. Du coup, c'est une série où les personnages sont là à but uniquement humoristique, à but parodique. À la base, c'était du coup un webcomic qui...
C'est un gag manga.
C'est ça, c'est un gag manga où justement qui va s'amuser à parodier plein d'autres œuvres pour faire de la dérision, avec des messages. Et du coup, on voit par exemple que le caractère original des personnages, justement, qui est ce qu'on voit à la fin du gif, a vraiment un côté très cartoon, très arrondi, avec des proportions un petit peu disproportionnées, justement.
Ça va même jusqu'à un degré de minimalisme. On pourrait envisager des switches de corps entre les personnages.
Ah oui, sans souci.
Ce sont plus des concepts, en fait, plus que des corps, en fait.
Exactement. C'est-à-dire qu'on a... Je pense que c'est un clin d'œil. On a justement ce côté un peu Laurel et Hardy, donc c'est un peu le petit gros et le grand mince. Et du coup, ensemble, qui vont faire plusieurs gags. Et on a, par exemple, celui-là, où justement, on a tout ce décalage du fait que... à part d'un Kaizen qui va être très réaliste, très correspondant au canon du secteur, donc c'est avec par exemple, des cheveux très, très détaillés, etc., et qui reviennent tout de suite à leur Kaizen très, très comique, dès qu'elles nous font face.
Il y a un autre gif qui pourrait résumer un petit peu, je trouve, l'image de cette table ronde, qui est alors un geek fascinant techniquement. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, Nabashi.
Du coup, ça vient de Panty et Stocking, ouais. With Gutterbelt, qui est une série qui reprend un peu le concept aussi du humoriste et très, très cartoon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le style original de la série, c'est le côté cartoon et pas le côté animé très soigné, qui en fait tourne en ridicule les transformations de Magical Girl. Ouais. En les rendant d'un coup super belles, super jolies et tout. Mais c'est juste pour le côté humoristique de la chose. Et notamment au niveau de l'animation, le morphing des visages des personnages est impeccable.
Et puis surtout, il faut le préciser, normalement, leur état normal, c'est le côté cartoon. Quoi.
Bah c'est, oui, c'est ça.
C'est ça, c'est le fait de faire du réaliste pour la blague, c'est quand même assez fort.
C'est beaucoup de moyens pour juste une blague.
C'est ça, ouais. C'était genre vraiment pour appuyer ce côté, dès qu'elle se transforme, justement, elle redevienne des canons de beauté pour justement revenir un peu au Magical Girl où dès qu'elles enfilent leur tenue.
Il y a beaucoup de Magical Girl, je pense au cas de Gigi en France, où c'est une petite fille qui devient une adulte dès qu'elle se transforme, par
c'est
exemple.
Ça, ouais.
Même Amy Magie,
enfin, toutes les Magical Girls. On peut peut-être remonter ça, même si c'est pas, c'est pas tout à fait dans le même style, mais voilà, c'est voilà,
ouais, mais on voit quand même qu'elle a sûrement pour correspondre à un certain canon de beauté et essayer d'attirer le spectateur. Et du coup, justement, Spanty, Stalking et entre autres, pardon, Pop Team Epic vont jouer sur ça. Alors, redonnant justement un chara design qui va être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus séduisant, beaucoup plus attirant dans leur transformation. Et je pense que c'est ce qui est parodié dans leur morphing, justement.
Le décalage est aussi utilisé, parce que là, on est vraiment dans un pur style humoristique, voilà. Mais il est aussi utilisé pour exprimer parfois... On va revenir un peu sur la notion de malaise, un petit peu de violence. Et tu voulais parler de Souris Tama.
Je te laisse mettre du coup.
Oui, vas-y, je t'en prie.
Donc Tsuritama, qui est une œuvre qui date de 2012, qui utilise les décalages, on dit mot, de la représentation du personnage pour montrer le mal-être qu'il a, et notamment le personnage principal qui a des très fortes angoisses, qui sont traduites dans l'animé par la noyade, qui est un peu un sentiment qu'on peut... Quand on est angoissé, on se sent noyé par ses sentiments. Et là, il le montre littéralement en le montrant se noyant, mais il faut savoir que c'est quelque chose que nous, on voit, mais ce qu'on voit, c'est ce qu'il ressent. Jamais les autres personnages de la série vont voir l'eau monter, notamment sa présentation dans la classe où l'eau monte. Mais c'est parce que lui, il sent l'angoisse monter. Et jamais dans la série, l'eau ne va monter dans la salle de classe et personne ne va le voir, à part nous, du coup, parce qu'on nous invite à entrer dans son...
Mais si je ne me trompe pas, c'est également une métaphore qui existe, le corps noyé dans March Comes Like a Lion.
Exactement.
Qui, là aussi, pour traduire une certaine angoisse.
Exactement, oui. Mais du coup, ce qui est pas mal dans Tsuritama, c'est qu'il y a un changement graphique entre le moment où il est noyé, on le revoyait mieux sur l'autre illustration.
Ouais, je vais le remettre l'autre.
Où il y a le côté vraiment très simple de ce qu'il est sous l'eau pour revenir à quelque chose de plus naturel quand l'angoisse est partie, en fait.
Ok, avant de donner la question, tu voulais parler d'un dernier truc, Lian, c'était Kobayashi, je crois. Rapidement, ouais. Puisque là on arrive au côté humoristique où le corps est vraiment.
C'est utilisé. Ça, exactement. Donc c'était pour justement faire le côté un peu transversal entre le décalage humoristique et l'attirance. Parce que du coup, Miss Kobayashi, ce sera justement une série.
On retrouve le gif.
Donc c'est un slice of life, donc une série de
tranches de vie.
De tranches de vie, merci. J'ai oublié la traduction. Où justement on va juste suivre des personnages dans différentes situations, donc souvent un but humoristique, ou justement dans ce cas-là, un but pour essayer de nous faire attacher au personnage. Donc, pour info, ce personnage-là est un dragon.
Voilà, alors je ne sais pas combien de personnes n'avaient pas vu la série, n'ont pas vu les cornes directement, mais se trouve que. Voilà,
exactement.
C'est quand même. Ça a vraiment l'air d'une enfant, alors que pendant tout, voilà, c'est un dragon. Quoi.
C'est un
dragon, mais c'est un dragon.
Et du coup, il se trouve que l'ensemble du cast, l'ensemble des personnages de Miss Kobayashi, justement, auront tous, une fois en forme humaine, des traits vraiment très attirants ou très
singuliers.
Très mauvais.
Bah oui,
on est dans du Kyoani de nouveau.
On peut peut-être faire une précision. Kyoto Animation, qui a réalisé Keon, dont on a parlé tout au début.
Free aussi, également, tout à l'heure.
Qui a posé une sorte de standard sur le graphique, on va dire.
Oui.
Ce qui fait que même parfois, aujourd'hui, quand ils font des œuvres qui ne sont absolument pas de la tranche de vie, qui sont même parfois de la pure action, etc., où on a du ressenti sur le personnage, c'est difficile de ne pas avoir dans un coin de sa tête, de se dire, ah, c'est quand même mignon.
Bah oui, il y a toujours cette petite patte mignonne qu'on peut retrouver même dans juste des expressions toutes simples où ils vont simplifier le visage du personnage pendant 5 secondes, mais ça va être suffisant pour nous suivre pendant toute la série.
Et on peut même dire que parfois le moé est utilisé dans certaines séries d'action comme pour le coup, on va faire une transversalité totale entre les trois thèmes, c'est-à-dire qu'on a une série d'action qui, à un moment donné, pour faire un gag, va utiliser une déformation un petit peu du personnage pour dire, voilà, c'est le côté...
C'est le côté humour de la scène, humour. En fait.
Ou même, pour dire, voilà, un autre décalage, mais toujours humoristique, voilà, c'est dans Barakamon, je sais pas si tu n'avais pas amené, voilà, il y avait un tome... donc ça, c'est une petite fille, voilà, qui prend des têtes comme ça.
Quand elle devient sérieuse comme un adulte, elle prend une tête d'adulte, simplement.
Et avant de revenir immédiatement, Naru, qui est...
Exactement, la petite fille qu'elle était.
Voilà. Il nous reste un petit quart d'heure. On va prendre les questions du public, s'il y en a.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonjour Nemo. merci pour cette conférence déjà. Vous avez touché du doigt quelque chose de vraiment sympa en parlant de My Hero Academia. Ça m'a beaucoup frappé. Et par exemple, je voudrais parler rapidement de la sortie d'un manga récent qui s'appelle Plus Size Elf, où on a une elfe, donc tout à fait science-fictionnelle, qui arrive sur notre Terre et qui mange des frites. Et du coup, ça nous donne un manga où la représentation des corps est réaliste, où effectivement, on a quelque chose de rare, de subversif, on a des corps réalistes. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez citer ou nous conseiller tout simplement d'autres œuvres body positive, récentes, mainstream et safe for work, s'il vous plaît?
Oui.
Et est-ce que ça nous dit quelque chose sur le japonais, sur le Japon d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une transformation qui se fait?
Alors, ça va être très compliqué. J'ai pas d'exemple là, comme
j'ai
ça.
J'ai un manga qui est sorti de mémoire chez Kana qui s'appelle Tel que je suis, si je ne me trompe pas, qui met en scène une lycéenne donc en surpoids. Et en fait, il va s'attirer. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être le meilleur exemple, mais en gros, on va dire le plus beau garçon de sa classe, lui, il aime bien les filles avec de l'embonpoint et va décider de sortir avec elles pour son embonpoint. Et du coup, je trouve que cette série, j'ai lu quelques chapitres et je trouvais ça assez positif du coup parce que le discours n'est pas de la faire maigrir, au contraire, mais de lui dire « t'es très bien comme tu es, continue, ne fais pas de régime » parce qu'à un moment donné, elle se met en tête de faire un régime alors que pas du tout, il ne veut pas qu'elle fasse de régime.
Ce qui est assez à rebours de ce qu'on peut connaître. Alors, on ne va pas se mettre à juger la société japonaise ici sur cette scène voilà, en 5 minutes, mais il faut quand même le dire, il y a une propension à vouloir des corps extrêmement maigres. Je crois même qu'il y avait même des entreprises qui demandaient des cours de sport aux personnes obèses. Enfin, c'était,
Ah bah ça, c'est dans toute l'Asie en général, il y a toujours cette espèce de centre. Alors, je ne sais pas si c'est au Japon en particulier, parce que moi, ce que je savais, c'était en Chine, mais des centres où, en fait, ils vont prendre des classes de personnes en surpoids pour, pendant un mois, leur faire perdre du poids à outrance.
Mais c'est vrai que cette représentation constante du personnage gros, hein, voilà, tout simplement, en tant qu'objet comique, bah, voilà, on est touchés, nous deux, mais c'est vrai que c'est une représentation assez insupportable, comme il y en a plein d'autres. Vas-y, Léna.
Mais c'est juste que, du coup, pour te répondre, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'exemples. Parce que justement, comme on voit rien que dans My Hero Academia, le fait que justement le passage au manga, à l'animé, a fait que tous les personnages ont connu justement tout un lifting. Donc elles sont toutes perdues du gras.
Ochako n'est pas la seule, hein. Il y a d'autres personnages qui se sont retrouvés à fondre.
Exactement, c'est vraiment tout le cast féminin a perdu du poids au passage à l'animé. Ce qui fait que je ne sais pas encore aujourd'hui si effectivement il y aura beaucoup d'exemples. Et je pense que c'est vraiment parlant aussi dans le fait que justement les sociétés production restent ancrées vraiment dans ce canon de beauté de il faut des personnages mince pour qu'il reste attirant.
Dans l'animation en tout cas, parce que du côté manga, on a quand même quelques œuvres où ça commence un peu à bouger.
C'est vrai que je précise bien les sociétés production d'animation. Ouais.
Après, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais il n'est pas impossible que dans les adaptations de My Hero Academia, les personnages aient fondu pour des questions de facilité d'animation.
C'est possible aussi.
Mais effectivement, le décalage est intéressant entre les deux. Voilà, je ne sais pas si on a vraiment répondu à ta question, mais on aura essayé du moins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timides.
On a une live.
Bonsoir.
Bonjour.
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 Alors, deux choses. Je suis un petit peu étonné qu'on n'ait pas parlé de Major, qui est quand même du corps de Major dans le film et comme dans la série télévisée, Ghost in the Shell. Et pour revenir un petit peu sur les personnages obèses, je pensais aussi à un des protagonistes de Paprika, je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle.
Ah oui, effectivement, oui.
Alors, qui est un homme extrêmement obèse et il critique pas du tout son obésité, alors un petit peu, mais presque pas son obésité de tout le film.
Alors pour répondre simplement, il y a plein d'œuvres qu'on n'a pas pu aborder parce que, comme tu pourras le constater, la conférence faisait 45 minutes. Donc effectivement, on n'a pas parlé de Ghost in the Shell parce qu'il a fallu qu'on éditorialise un peu cette conférence en trois parties.
C'est aussi une conférence.
Mais exemples sont bons. Il n'y a pas de voilà. Après Paprika, malheureusement, je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas.
Alors pour l'avoir vu récemment, je pense qu'au contraire, même si ce n'est pas dit explicitement, le fait que l'obésité par exemple du protagoniste est assez mise en valeur de façon négative. Je pense par exemple tout à la scène, très connue de Paprika dans la fanfare, tout le moment justement où il défile avec la fameuse musique. Là, je pense que justement au contraire, la façon dont il est représenté, est montrée de façon assez négative quand même. Et du coup, même s'il n'y a pas un personnage qui dit explicitement "Oh, tu es obèse", la façon dont il est montré, la façon dont on en joue, fait que justement il y a quand même toute une connotation négative du le fait qu'il soit obèse prend des proportions immenses et du coup le fait d'être obèse est déjà une exagération en soi contrairement à la normalité. C'est justement dans le rêve par exemple il est montré de façon toujours de plus en plus obèse jusqu'à qu'il ne devienne juste qu'une télé dans un corps immense et du coup je pense que ça met en valeur de façon négative ça. justement.
Après, il faut pas non plus voir de la négativité partout. Il se trouve que les corps obèses ont des caractéristiques qui leur sont propres. S'en moquer, c'est pas non plus... Il y a des façons de le faire, en fait. On en revient à la conférence qu'on avait fait l'année dernière sur les 100 ans d'héroïne. Il y a des façons de traiter les corps, en fait. Il est tout à fait possible de traiter de façon humoristique un corps obèse. Encore faut-il que ce soit fait de façon, on va dire, consentante, etc., que ce soit bien...
Sans jugement, surtout.
Sans jugement, voilà. Et c'est extrêmement compliqué à faire. Mais pour pas quand même fuir totalement la question sur Ghost in the Shell, effectivement, on aurait pu s'intéresser sur les corps un petit peu aussi robotiques, où on aurait pu aller plus loin. Voilà. Il se trouve que c'est une des limitations qu'on a eues pour cette conférence, j'en suis désolé, mais j'ai pas d'autres réponses à t'apporter que ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le public ? Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Je trouve ça bizarre que vous n'ayez pas parlé de mecha, parce que les corps dans l'animation japonaise, ça me paraît assez important. Et ma question, ce serait, est-ce que les mechas ne sont pas une espèce d'idéalisation pour, en quelque sorte, moi je pense, esquiver le tabou du corps ? Je pense par exemple dans Gundam, le corps est présenté comme absolument essentiel, il n'y a que ça de vrai.
Je vais te faire la même réponse qu'à l'autre. Effectivement, il y a des parties qu'on a forcément oubliées. Comme je le disais en introduction, la représentation du corps est un thème extrêmement large. Chacun le verra aussi de façon des œuvres qu'il connaisse. Et je ne peux pas te donner tort sur le fait qu'il y ait des manques, qu'on aurait oublié de parler de ceci ou cela. Après, voilà, si tu veux peut-être ajouter quelque chose sur les mechas.
En soi, justement, on a légèrement abordé cette question autour de Darling in the Franxx, justement, où justement on a toute la nouvelle vague de mechas. On essaie absolument de représenter le mecha par un corps féminin, enfin souvent féminin ou masculin,
humain en tout cas,
humain, oui. Et du coup d'essayer de le rendre idéal, comme tu le dis, non seulement du coup par Darling in the Franxx, mais auparavant il y avait par exemple Evangelion qui a justement lancé cette mode du corps.
Effectivement, il y a toute une notion qui est intéressante dans le mecha. On en a un peu parlé par le biais de Darling in the Franxx, c'est la façon dont aussi, parce qu'on a parlé de douleur, la façon dont les pilotes reçoivent la douleur depuis leur mecha.
Techniquement, ils devraient être protégés dans le cockpit.
Ouais, mais ça reste un élément scénaristique assez intéressant, l'idée de dire voilà, l'homme qui est derrière sa machine, ou c'est toute la machine qui...
Après, je pense dans les séries récentes, la série Gundam Ibo, où cette fois le pilote est directement connecté à son mecha. Via le dos, il me semble, ils ont une partie des pilotes est connectée organiquement, on va dire, au méca.
Généralement, l'excuse, c'est oui, ça leur permet de mieux piloter.
Oui, mais je trouve ça intéressant quand même.
C'est très intéressant, effectivement.
Il n'y a plus de séparation entre le méca et le pilote, en fait.
Même si, justement, c'est plus ou moins déjà arrivé avec justement des choses comme Evangelion, où par le psyché, le pilote va se connecter et va communiquer avec le méca directement et vont plus ou moins... fusionner.
On peut même envisager l'idée de dire que, parce que là on est vraiment sur le côté douleur, violence, mais même l'attraction, c'est-à-dire qu'un méca qui serait vraiment extrêmement bien représenté peut avoir des degrés d'érotisme léger, même
pour les méca-filles déjà. Le méca de Darling in the Franxx qui a une poitrine.
Exactement, oui. Une poitrine, a un fessier, a un entrejambe et du coup a des expressions faciales.
Il y a probablement une raison technique, il faudrait demander à un expert de méca.
Il n'y a pas d'expert méca aujourd'hui, hélas.
Mais voilà, en tout cas, pour te répondre, effectivement, ta remarque est pertinente là-dessus, mais voilà, c'est les limitations de l'exercice. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Quelqu'un ici ?
C'est génial parce qu'on rebondit sur Darling in the Franxx. Ma question, c'était, vous avez parlé tout à l'heure de la représentation, en fait, la façon de du coup, les personnages d'être objectifiés, la façon dont ils pilotent, c'est le studio qui fait un petit peu, qui met ses gros sabots dans le scénario. Et je me demandais s'il n'y avait pas un peu de second degré en fait derrière, parce qu'on sait que Darling in the Franxx a été fait par le studio Trigger, qui est connu aussi pour Kill la Kill. Donc j'ai vu que vous aviez un petit gif aussi.
On peut te le montrer si tu veux, pour le côté un peu chibi, un peu mignon, voilà.
Oui, c'est ça. Et Trigger, qui est très dans l'exagération, mais qui a aussi un peu qui donne aussi l'impression de se moquer des clichés de l'animation japonaise qui justement font de l'objectification de ces personnes, de leurs personnages, voilà. Et du coup, qui ont décidé d'exagérer ça à l'extrême, c'est-à-dire que dans Kill la Kill, les personnages s'affrontent, les corps volent partout, ça devient vraiment du n'importe quoi. Et une autre œuvre de Trigger qui s'appelle Ninja Slayer, où là les corps c'est carrément des bouts de papier qui sont animés, qui sont pas animés en fait. C'est...
Alors, je vais commencer par répondre sur ta première partie de ta question, sur le fait, est-ce que ça peut être du second degré ? Alors, c'est une éternelle question où chacun, je vais faire un peu de langue de bois, mais chacun y verra ce qu'il veut. Personnellement, je n'ai pas trouvé que. Il y a plusieurs raisons à ça, je donne après. Il y a plusieurs raisons à ça. Tu as cité Kill la Kill. Par exemple, il y a une scène tout au début de Kill la Kill qui, moi, me gêne beaucoup. C'est le moment où l'héroïne acquiert pour la première fois son costume, où on est quand même à la limite de la représentation d'une scène de viol. C'est mon interprétation. Mais le fait est que je trouve que la subtilité est tellement pas présente que c'est un peu facile de parler de second degré, honnêtement. On est sur des personnages qui sont volontairement placés en abstinence d'éducation sexuelle, mais les gens qui font ça savent très bien que les personnes qui regardent, ce n'est pas le cas. Donc la représentation est, j'ai envie de dire, tellement grossière que j'ai du mal à croire à la théorie du second degré, pour être tout à fait honnête. Mais par contre, voilà, c'est pour le coup un avis purement personnel.
Du coup, j'avais deux choses à te répondre sur, par rapport à ta question. La première, c'est que du coup, par exemple, le cas d'Aaron Frank, c'est un petit peu à part dans le fait que Trigger n'est pas le seul parent d'Aaron Frank, parce qu'il a été coproduit, co-réalisé et co-écrit avec les studios A1. De ce fait, justement, on sent que ça n'a pas exactement le même impact que ce qu'on peut retrouver dans Kill la Kill. Parce que justement, je sais que moi, dans Kill la Kill, j'ai beaucoup ressenti le second degré. Mais il faut savoir que, pardon, dans Dying the Franks, le scénariste avait dit que lui, pour lui, c'était sa façon d'écrire. Que pour lui, c'était vraiment... S'il n'y avait pas second degré, c'était ce qu'il voulait raconter et qu'il voulait transmettre des messages au travers de tout ce qu'il a voulu, de tout ce qu'il a mis dans Dying the Franks. Ce qui fait que justement, plus tard, sans spoiler personne, mais plus tard, justement, toutes les raisons de toute objectification, toute la sexualisation des personnages est expliquée plus ou moins de façon solide, mais c'est quand même expliqué plus loin dans le scénario. Et du coup, pour lui, c'était vraiment une façon de transmettre des messages et de faire passer certaines idées, certains concepts au travers du dessin. Donc c'est beaucoup moins subtil, justement, que dans d'autres œuvres comme Evangelion, qui lui a beaucoup servi de source, enfin d'aspiration, pardon. Dans Evangelion, justement, on a beaucoup plus une subtilité où on peut comprendre les messages, mais qui ne sont pas forcément très graphiques et montrés dans la face. Et effectivement, le scénariste de Dying of Frog, c'est beaucoup moins subtil dans sa façon d'essayer de transmettre certains messages. Et voilà.
Et après, pour conclure, j'ai envie de refaire à nouveau l'avocat du diable. Là, évidemment, c'est notre opinion, mais peut-être on n'est pas à l'abri que les intentions initiales de l'auteur étaient un petit peu second degré et que c'est raté. C'est possible.
Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à regarder. Au début, j'avais une impression de second degré. J'ai eu l'impression que ça se perdait tellement à la fin qu'il n'y en avait plus, en fait. Ouais. Et je me perdais un peu, j'arrivais plus à savoir quoi penser, en fait.
Du coup, c'était la dernière question. On nous affiche Laurent Gros, donc je suppose que c'est le moment de nous quitter. On va laisser la place à Amo et Tsushi pour la présentation et tous les cosplayers et cosplayeuses pour le défilé cosplay d'Utopial. Merci pour votre attention et bonne fin d'Utopial à toutes et à tous.